Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Bonjour et bienvenue dans Sois gentil, dis merci, fais un bisou, le podcast des anciennes petites filles sages qui ont arrêté de l'être. Je suis Clémence Bodoc et je suis très heureuse de te retrouver cette semaine avec un nouvel épisode dont j'aimerais te partager un moment de coulisses. Peut-être as-tu découvert la série Netflix Sex Education sortie le 11 janvier 2019. Alors je le précise tout de suite, cet épisode n'est pas sponsorisé, car lorsqu'un épisode est sponsorisé, c'est clairement indiqué dès le début. Non, si je te parle de cette série, c'est parce que je l'ai trouvée très intéressante dans sa manière d'aborder les grandes questions et les petites galères liées à la découverte de la sexualité et aux premières amours à l'adolescence. Puis j'ai appris que l'actrice principale, celle qui incarne Maeve Whaley dans la série, est franco-britannique. Elle a grandi en France, à Sablé-sur-Sarthe plus précisément, et elle parle donc couramment français. Même si, tu l'entendras sans doute, elle galère un peu à retrouver ses mots, l'anglais lui vient plus naturellement parce qu'elle y vit depuis plusieurs années maintenant. Car oui, l'invitée de cette semaine n'est autre que l'actrice Emma McKay à l'affiche de la série Netflix Sex Education. L'éducation sexuelle sur mademoiselle.com, on contribue à en faire très régulièrement. Et d'ailleurs, je profite de cet épisode pour te parler d'un nouveau podcast que nous avons mis en ligne ce lundi 28 janvier. C'est une enquête mêlant témoignages et réponses d'expertes en 6 épisodes au sujet des moyens de contraception. Ce podcast a été écrit et réalisé par Esther Meunier, il s'intitule « Ma contraception et moi » et je t'encourage fortement à lui accorder une écoute. Laisse-moi t'en convaincre avec ce petit teaser.
Je suis Esther, journaliste chez mademoiselle.com et dans ce podcast, je pose plein de questions sur les méthodes qui permettent de ne pas enfanter sans le vouloir.
Est-ce qu'on veut prendre des hormones ou pas ?
Comment ça fonctionne la pilule ?
Est-ce qu'on met des préservatifs en plus ou pas ?
Difficile de s'y retrouver.
Moi, je pensais que la pilule, il fallait la reprendre le premier jour de ses règles.
De choisir.
La pilule, j'en avais marre.
D'être satisfaite de la solution utilisée.
Sincèrement, je pense que je sais pas si un jour je serai à nouveau sereine avec ma contraception. Si je serai sereine quand je serai ménopausée, quoi.
On est nombreuses à en avoir essayé plusieurs sans trouver le moyen parfait.
J'avais l'impression qu'on prenait contrôle sur mon corps.
Je pense que j'aimerais que peut-être une petite fois par an, et ça c'est juste hyper confortable en fait.
L'objectif de ce nouveau podcast est d'y voir un peu plus clair.
La contraception hormonale, c'est un médicament. Et donc tous les médicaments ont des effets secondaires, c'est vrai.
L'idée selon laquelle le cycle doit être absolument régulier et faire 28 jours, c'est une légende.
En 6 épisodes, on va parler pilules, stérilets, méthodes dites naturelles, hormones et plus encore.
C'est dur de trouver un bon praticien au final quand t'es ado et que tu sais pas trop vers quoi te tourner.
En espérant qu'à la fin, tu pourras prendre ta décision en connaissance de cause.
Voilà, j'espère que ça aura piqué ta curiosité. Si c'est le cas, tu trouveras le lien dans la description. Avant de passer la parole à Emma McKay, je te rappelle que le meilleur moyen de soutenir Sois gentil, dis merci, fais un bisou, si tu le kiffes et que tu veux contribuer à rendre l'humanité meilleure, c'est d'en parler autour de toi, de le partager, d'aller mettre 5 étoiles sur iTunes et un commentaire positif. Et un commentaire positif. Merci beaucoup et bonne écoute. Bonjour Emma.
Bonjour.
Tu incarnes le personnage de Maeve dans la super série Sex Education, dispo sur Netflix. Et surprise, surprise, tu es franco-britannique.
Eh oui.
Donc tu parles français. Alors la première question que je pose à toutes mes invitées dans ce podcast, c'est quel genre de petite fille tu étais quand tu avais 7 ans ?
Waouh, quand j'avais 7 ans. J'avais déjà dit à mes parents à 7 ans que je voulais aller à l'université en Angleterre. Donc apparemment j'étais déjà très académique et j'aimais beaucoup étudier et j'aimais beaucoup mes livres. J'ai énormément lu pendant toute mon enfance. Donc grande lectrice déjà. Et je jouais beaucoup évidemment, je me déguisais tout le temps et je jouais au piano et voilà, toutes sortes de choses.
Et est-ce que tu te souviens de la première fois que tu as dit « quand je serai grande, je serai »
Je me souviens pas de la première fois, mais j'ai eu beaucoup de... Quand je serai grande, je voulais être costumière pendant un moment, je voulais travailler pour l'ONU à un moment. Et en fin de compte, je suis devenue actrice, en fait.
Alors justement, parlons-en, parce que j'ai lu sur Wikipédia que tu étais née au Mans. Tu as grandi à Sablé-sur-Sarthe. Oui. Tu as eu ton bac dans l'Académie de Nantes. Explique-moi comment tu passes de la Sarthe au rôle titre d'une série Netflix britannico-américaine.
Je ne sais pas du tout ce qu'on fait là. J'ai été à l'université en Angleterre, à Leeds. J'ai fait mes études là-bas. J'ai fait langue et littérature anglaise. Une fois que j'ai reçu mon diplôme en 2016, j'ai déménagé à Londres pour justement poursuivre une carrière... Dans le théâtre et le cinéma. Et j'ai passé un an à faire des cours de théâtre avec un prof extraordinaire qui s'appelle Lawrence Mitchell, qui m'a tout appris et je considère ses cours un peu comme ma formation. Et au bout de cette année, il m'a recommandé à une agence et j'ai rencontré mon agente, qui est mon agente aujourd'hui. Et voilà, j'ai commencé à faire des auditions et j'ai obtenu le rôle de Maeve. Voilà.
Bah, bravo en tout cas pour ce rôle. Moi j'ai bingé toute la série en moins d'un week-end. C'est génial.
C'est ce que j'aime bien entendre.
Vraiment, c'était trop bien. Super. Alors sur Mademoiselle, en plus, on parle beaucoup d'éducation sexuelle, on parle beaucoup de ces sujets. Ouais. Et la façon dont toutes ces thématiques sont abordées dans la série est juste géniale.
Ah, tant mieux, je suis contente.
Bravo. Ouais. Je suis trop contente que tu aies accepté de faire cette interview parcours portrait avec moi. Encore plus, car tu as choisi plein de questions.
Ouais,
visiblement.
Bah, on m'a dit 5 par section, donc je vais essayer de répondre à tout correctement.
Alors, tu m'as choisi la première fois que tu as défendu ton avis.
Alors, la première fois que j'ai défendu mon avis, je pense, à proprement parler, ça devait être... ça a dû se passer avec mes parents quand j'étais plus jeune, mais la première fois où je m'en suis vraiment rendu compte, c'était pendant un cours de philo. Et je pense que c'était la première fois où j'avais réussi à défendre mon point de vue, vraiment, à proprement parler, et sans me baser sur quelqu'un d'autre et sans suivre l'opinion de quelqu'un d'autre. C'était vraiment mon jugement et mon opinion sur le monde, et je me suis sentie forte. Je me suis dit, attends, je peux penser pour moi-même quand même, et je ne suis pas obligée de copier tout le monde. Et je pense que ouais, c'était à ce moment-là que j'ai réalisé que je pouvais me défendre un peu.
Est-ce que tu te souviens de la fois suivante où tu as utilisé cette première force, où tu t'étais dit, mais ça, c'est un muscle que j'ai déjà utilisé?
Je pense, je me souviens pas d'événements spécifiques, mais dans, ouais, sûrement. Et puis surtout à l'université, je pense que quand tu entrais dans un monde très différent du mien, enfin, ou celui dont j'avais l'habitude à Sablé-sur-Sarthe, j'ai dû me défendre quand même. Et c'est vrai que c'est un muscle qui se travaille aussi. Donc, ouais.
La première fois que tu étais fière de toi?
La première fois que j'étais fière de moi, je pense que quand j'ai eu les résultats du bac et que je savais que j'allais partir en Angleterre, parce que c'était mon rêve et c'était vraiment quelque chose que je voulais faire avec toute mon âme. Et quand j'ai eu ces résultats et que je savais que je partais, j'étais vraiment fière de moi. Ouais.
Parce que tu as fait un bac un peu spécial,
fait un bac L, j'ai fait un bac français, pas international, bac français, bac littéraire. Ouais.
D'accord. Ouais. Est-ce que tu te souviens de la première fois que tu as eu peur, tu as été confrontée à la peur?
Bonne question. J'ai une peur complètement irrationnelle du vomi.
Ah, hémétophobie.
Exactement. Donc j'ai une hémétophobie, et c'est horrible, et je sais pas pourquoi, mais c'est complètement inné, et j'ai absolument horreur de ça et je peux pas le faire. Donc voilà. Donc ça, c'est une grande peur. Donc, mais sinon dans la vie, je pense que si un membre de ma famille tombe malade, j'ai peur, parce que j'ai envie de protéger tout le monde et de faire en sorte que tout le monde soit bien.
C'est intéressant, ça veut dire que t'as pas vraiment des peurs viscérales qui sont immatérielles, tu sais, la peur de l'échec,
pas
ce
vraiment,
genre de choses.
Ouais, pas vraiment. Je sais pas pourquoi. Je pense que je suis assez pragmatique et assez pratique, donc je travaille beaucoup et je m'entoure de gens qui m'aide d'une manière positive, et je pense que ça, c'est le plus important. Donc après, les peurs, les peurs, c'est vraiment juste sur la santé, apparemment. Sur la santé des autres et ma santé, donc ouais.
C'est hyper intéressant, t'es pas la première à me dire que c'est important pour toi d'être bien entourée dans la vie.
Oui.
Et que c'est une vraie source de confiance au quotidien.
Oui, absolument.
À propos de confiance, justement, est-ce que tu te souviens de la première fois que tu t'es fait confiance?
La première fois que je me suis fait confiance, je pense, à proprement parler, je pense que c'était le moment où... Enfin, il y en a beaucoup quand même. Je pense que j'étais très confiante quand j'étais petite. Je savais ce que je voulais. J'étais naïve et innocente, c'est sûr, mais j'étais toujours un peu têtue, et je pense que je savais où aller. J'avais toujours un sens de la direction, dans le sens où je savais où je voulais aller et je savais que je voulais accomplir des choses et que je voulais aider les gens et voilà, créer des choses. Donc, ouais. Je sais pas si ça répond vraiment.
Tu penses au drive en anglais, c'est ça?
Ouais,
to be driven.
Ouais,
donc ce serait une force intuitive, l'intuition.
Ouais, ouais.
De savoir ce que tu voulais faire.
Oui, ouais. Ouais.
Est-ce que tu te souviens de la première fois que tu as défendu une idée ou un projet avec les tripes, même si c'était contre l'avis de tout le monde?
Oui, quand j'ai dit une fois que c'était quoi? C'était la fin de ma dernière année à l'université. Et j'ai appelé ma mère et je lui ai dit, écoute maman, je vais déménager à Londres et je vais m'inscrire dans les écoles de théâtre. Elle fait pardon? Quoi? Et je lui ai dit, écoute, c'est mon projet, je sais que c'est ce que je dois faire et il faut que j'aille à Londres, il faut que je poursuive cette carrière et t'inquiète pas, maintenant c'est moi, tu n'as plus à t'inquiéter de moi, je vais être indépendante, je vais trouver une solution. Et c'est vraiment à ce moment-là où je me suis sentie forte et indépendante et c'est là où j'ai défendu un projet vraiment avec mes tripes, quoi. Et ouais.
Et t'avais pas peur à ce moment-là?
Si, évidemment. Voilà, comme quoi. Bien sûr que j'avais peur, mais c'était plus, j'étais plus excitée qu'autre chose, parce que je savais que j'allais trouver une solution et que on arrive. Comment dire? J'ai encore du mal à. We're meant to be where we're meant to be.
Ok.
Ça a du sens. Donc on arrive toujours à l'endroit où on est censé être. Donc tous nos choix mènent là où on est censé être. Donc j'ai foi en ça.
Tu crois un peu au destin, au fait que les choses doivent se passer, si les choses doivent se passer, ça se passera comme
ouais,
ça.
Je pense, ouais. J'essaie d'être pas trop spirituelle, ça. Je suis assez réaliste, mais oui, je pense qu'il y a une grande partie évidemment une grande partie de comment les choses se déroulent. C'est grâce à nos choix et c'est grâce au travail qu'on fait, aux gens qu'on rencontre, etc. Mais il y a beaucoup de, il y a quand même un petit quelque chose de l'univers qui nous aide quand même.
Ok, donc c'est pas vraiment de la foi spirituelle, comme tu dis, c'est plutôt du lâcher prise avec,
oui.
Tu vas pas t'en vouloir si les choses ne marchent pas.
Il faut pas se mettre la pression, il n'y a pas le temps, il faut arrêter de se mettre la pression tout le temps.
Alors, t'as choisi une question que j'aime beaucoup.
Ah.
Le jour où j'ai compris que j'étais une femme.
Ah oui, du coup, le premier jour de mes règles, je pense que j'étais un peu plus en retard, entre guillemets, par rapport aux filles dans mon collège. Et moi, j'étais au lycée. Donc les filles dans mon lycée, donc j'ai le premier jour de mes règles, j'ai pleuré, je me suis dit attends, les choses vont plus être pareilles, quoi. Et je pense que j'ai réalisé que c'était le moment où je suis, c'est le moment normal, c'est le moment où on devient femme, quoi. Donc ouais, je pense que c'est ce moment-là.
Ça me fait penser un petit peu au thème de la série. Mm-hmm. Est-ce que c'est un âge ou une période où tu pouvais librement parler de ces choses-là autour de toi, de ce que tu as ressenti le premier jour de tes règles ou de ces sujets intimes finalement?
Ouais, je pense qu'avec j'étais avec ma meilleure amie quand ça s'est passé, j'étais chez elle, on faisait un petit sleepover
une soirée pyjama.
Voilà, exactement. Merci. Soirée pyjama ouais, je parlais avec mes amis proches et puis avec ma mère aussi donc j'avais une chance. Ouais, une chance de pouvoir parler ouvertement, mais on n'en parlait pas tous les jours, quoi. C'était pas quelque chose. On parlait pas vraiment de la sexualité. Et moi, j'étais très. On m'appelait coincée, évidemment, au lycée, parce que je parlais pas de sexe et j'étais un peu pudique par rapport à tout ça. Et maintenant, je parle de clitoris tout le temps, je parle de vagin tout le temps. C'est génial, c'est trop cool. Donc, on devient plus confiant avec l'âge aussi et les expériences. Et puis, je trouve qu'on a beaucoup de chance maintenant. Aujourd'hui, dans ce temps moderne, je trouve qu'on a quand même une plateforme extraordinaire où tout le monde peut en parler de ces choses-là, et surtout les femmes. Et je trouve qu'au fur et à mesure, on arrive quand même à devenir plus confiante et d'en parler plus ouvertement, parce que c'est normal, et ça ne devrait pas être tabou, justement. Donc ouais, je suis contente que j'ai moins peur d'en parler maintenant.
C'est hyper intéressant, parce que du coup, ton personnage est à l'opposé de qui tu étais au lycée.
Oui. Ouais, exactement. Donc c'est super intéressant.
Et ben dédicace à tous ceux qui t'ont traité de coincée au lycée.
Dédicace à tout le monde.
Moi, je te rassure, moi aussi, j'étais supposée coincée, vu que j'étais... Mais c'est pour ça que je pense que j'aime tellement cette série, Sex Education. Mmh. C'est parce que finalement, le personnage principal n'a aucune expérience pratique.
Exactement.
Mais il a toutes les clés théoriques.
C'est pour ça que c'est super, ça marche super bien. J'adore.
Est-ce que tu te souviens du jour où t'es sortie très loin de ta zone de confort?
Probablement mon premier jour à l'université. parce que c'était un choc culturel énorme. J'étais dans une, je suis venue de ma petite ville sartoise à une ville industrielle, une grande ville industrielle du nord de l'Angleterre avec beaucoup d'étudiants. Et je pense que j'étais un peu bouleversée. Je savais pas vraiment, j'avais pas de repères, évidemment. Donc tout était nouveau et là, je pense que c'était la première fois où je me suis sentie vraiment pas forcément seule, mais ouais, mais pas dans ma zone de confort.
T'avais quel âge quand t'es allée à
17 ans.
17 ans et toute seule.
Ouais. Donc c'était très formateur, évidemment. Ouais.
C'est quand même une décision difficile à prendre à 16 ans ou à 17 ans de partir dans une ville sans tes amis.
Ouais, mais c'est comme j'ai dit tout à l'heure, c'était une envie tellement forte en moi, je sais pas, j'avais juste envie de partir en Angleterre et d'étudier là-bas et c'était mon rêve quoi. Donc j'ai fait tout pour y aller.
Pourquoi c'était si important pour toi? Est-ce que tu sais pourquoi? Ou est-ce que c'est
je sais
intuitif?
Pas, c'était intuitif, mais je pense que c'est parce que je voyais l'Angleterre un peu je voyais tout ça en rose un peu parce que je m'entends tellement bien avec ma famille anglaise et on allait en Angleterre en vacances pour voir mes grands-parents, pour voir ma famille. Et on voyait des spectacles, on voyait du théâtre. Et donc, je pense que je me sentais vraiment connectée avec ce côté-là. Et je pense que j'avais envie de m'exprimer. Je sais pas si ça a peut-être du sens, mais j'avais envie d'exprimer mon côté anglais. Et j'avais pas forcément l'opportunité de le faire ça dans une petite ville française. Donc, ouais.
Le monde était un peu trop petit.
Oui, exactement.
En Sarthe.
Oui.
Oh, ben, je te comprends totalement. J'ai grandi dans la campagne en Moselle.
Ah oui, d'accord.
T'as choisi la question? Le jour où je me suis surprise
Je pense c'était probablement au tout début, quand j'étais à Londres au tout début et que je commençais à m'inscrire pour les écoles de théâtre, je travaillais justement avec Lawrence Mitchell, mon prof, et on travaillait sur un monologue justement c'était un monologue d'entrée pour les écoles et il m'avait poussé parce qu'il voulait que je trouve sembler comme une actrice un peu voilà comme ça, mais je me suis surprise dans le sens où j'ai réussi à trouver quelque chose en moi que j'avais pas trouvé avant dans mon jeu et ça m'a pris tellement d'énergie et en fait j'ai je sais pas, il y a quelque chose qui s'est éveillé en moi, désolée hein, je veux pas que ça soit prétentieux du tout, mais j'ai en fait j'avais beaucoup de choses que j'avais renfermées en moi, que j'avais gardées à l'intérieur et ce monologue m'a permis de tout ressortir et c'était émouvant et j'étais plus pareille après en fait. Et du coup, c'est là où j'ai trouvé un peu ma confiance et où j'ai vu que c'était possible de croire en soi. Et donc voilà. Mais je vais pas sembler prétentieuse du tout, mais c'était juste un moment très important pour moi.
Pourquoi tu penses que tu sembles prétentieuse quand tu racontes un truc?
J'ai pas envie d'utiliser des grands mots d'actrice. Je sais pas. C'était super. C'était un moment. Très important pour moi.
Mais quand tu racontes quelque chose de sincère et de personnel, c'est pas du tout prétentieux, vraiment pas. Je sais pas pourquoi t'as cette impression-là.
Voilà, j'ai peur de donner une mauvaise image de moi. Peut-être que ça, c'est une peur aussi, maintenant, qui vient avec le boulot, avec le nouveau travail et le nouveau monde dans lequel je suis. J'ai peur de sembler différente que je suis, j'imagine. C'est normal aussi.
Peut-être parce que les femmes et surtout les actrices sont beaucoup jugées sur leur apparence.
Oui. C'est vrai, t'as remarqué? Ouais. Oui, c'est sûr. Ouais.
Donc je te rassure que le public de Mademoiselle est très éveillé à ces questions.
Cool.
Et qu'a priori, on va pas se dire la meuf.
Mais la meuf, mais c'est pas possible quand elle parle. Ok, cool, tant mieux.
Non, je pense que le secret, c'est de parler de soi et de partager ce que soit on ressent soi-même. Mm-hmm. Et que tu risques pas d'être prétentieuse quand tu parles de toi.
Ok, super, merci, ça me rassure.
C'était quand le jour où t'as pris conscience que tu avais de l'impact, que tu avais une voix et un pouvoir, que tu pouvais livrer un message?
Je pense que ça s'est passé à l'université. Enfin, en fait, l'université m'a beaucoup aidée, j'en ai déjà parlé, mais à juste devenir plus confiante et à être plus sûre de moi dans mes opinions et à former mes propres jugements. Et ça, c'est quelque chose que pas tout le monde fait. Et je pense que l'éducation que j'ai eue, je suis très privilégiée dans le sens où j'ai pu avoir cette éducation et j'ai pu rencontrer des gens qui m'ont ouvert l'esprit et qui m'ont permis de penser pour moi-même. Et donc je pense que grâce à l'université, après quand je suis rentrée chez moi et que Je parlais à mon père avec qui, avant l'université, j'étais toujours d'accord avec mon père. Lui, il sait beaucoup sur les politiques, donc il doit avoir raison. Et je pensais toujours qu'il avait raison. J'adore mon père, hein. Ça n'a rien à voir, mais je pense que la première fois où j'ai réalisé que j'avais une voix et un impact, c'est quand on a eu un vrai débat sur quoi, ne me demandez pas, je n'ai absolument aucune idée, mais j'ai su me défendre et j'ai su parler vraiment pour moi et j'ai su réfléchir pour moi-même. Et utiliser toutes les ressources que j'avais, les conversations que j'avais avec des amis, les recherches que j'avais faites pour justement avoir un débat et pour essayer d'avoir un impact sur mon père et de changer sa vision des choses, par exemple, ou avec mon frère. C'est surtout, en fait, c'est vrai que des hommes, en fait. Voilà. En fait, je réalise que ouais, j'ai envie de changer la vision des hommes. Voilà. Donc, ce qui est assez bien pour ce podcast, j'imagine. Mais ouais, c'est vraiment... Je pense que ouais, quand je me sens confiante maintenant quand je parle... J'ai envie de changer la vision des jeunes hommes et de comment ils traitent les femmes et surtout mes frères. Donc ça, c'est je commence avec eux. Mais mes frères sont très bien. Ils sont très respectueux et très, très informés. Donc je suis contente.
Tu es l'aînée ?
Oui. Eh oui, ça se voit autant. Oui, je suis l'aînée, ouais.
Moi, je pense que tu contribues beaucoup à changer la vision des hommes et des jeunes hommes à travers ton rôle dans cette série. C'est quelque chose qui t'a attiré quand t'as eu le scénario ?
Bien sûr. J'ai pas forcément pensé à l'après, mais oui, le personnage Maeve, elle est tellement formidable. C'est une... est-ce que ça dit une tour de force en français ? Ça dit ça ?
Dis-le en anglais.
Tour de force.
Alors ça ne marche pas.
Ça marche absolument pas. Mais c'est une femme forte et une jeune femme forte qui vient au lycée tous les jours avec la tête haute, qui est confiante, qui est indépendante, qui a son propre style et malgré les harcèlements et malgré toutes les merdes qui lui arrivent, elle arrive quand même à montrer de l'humanité, elle arrive quand même à montrer de l'empathie et à s'occuper des autres. Et cet extérieur un peu on dirait à premier abord elle est très renfermée, elle fait un peu peur même presque, des fois tout le monde dit ça, c'est la bad girl, il fait peur, mais
elle est un peu hostile, elle a un comportement
oui,
hostile
sûr, mais parce qu'elle veut se protéger et tout le monde sait ça, il faut pas un génie pour voir qu'elle veut juste se protéger je pense qu'on passe on traverse tous une période en tant que femme où on veut pas forcément être vulnérable, on veut pas forcément s'ouvrir émotionnellement parce que ça fait mal des fois. On a peur de d'être blessé. Donc, je pense que beaucoup de gens vont se retrouver là-dedans et dans son attitude.
Est-ce qu'il va y avoir une saison 2 ?
Je vous l'espère, oui. Mais ça fait que 2 semaines que c'est sorti, donc là, on est tous en train d'attendre pour savoir s'il y aura une saison 2. Mais j'ai dit tout à l'heure, en fait, nous, on veut savoir ce qui se passe aussi parce qu'il y a tellement de trucs là que Adam. Qu'est-ce qui va se passer ? Donc ouais, on a envie de savoir si ça va arriver.
Est-ce que tu as eu des retours sur les réseaux sociaux ou des commentaires des gens qui t'interpellent pour te parler de la série ?
Alors, j'ai que Instagram et j'ai éteint les notifications parce que je suis pas très bien avec tout ça. Enfin, c'est pas que je suis pas très bien, c'est juste que ça met la pression et j'ai pas envie que mon travail devienne Instagram. C'est pas mon boulot et j'apprécie, enfin tous les retours ont été super et très positifs en général, donc je sais que les gens apprécient la série et ça me touche beaucoup et c'est super. Mais ouais, j'ai pas répondu, j'ai pas vu les commentaires, j'ai pas vu les messages et tout. Donc ouais, j'essaie de me distancier un peu pour le moment en tout cas parce que c'est tout nouveau et j'ai pas envie que ça me bouleverse trop. Donc je prends ça étape par étape, petit par petit, petit à petit même.
Ben en tout cas, je te souhaite de recevoir une déferlante d'amour pour ton rôle dans cette série. Merci. J'espère que c'est ça qui va arriver sur Instagram. C'est le meilleur réseau social entre nous. Hein. Ah, je prends parti. Mais sur Instagram, les gens sont gentils. Sur Twitter, ouais. Beaucoup moins.
Ouais,
donc c'est et Facebook, il y a de tout. Donc, t'as fait le bon choix sur Instagram.
J'ai que Instagram maintenant.
Est-ce qu'il y a un épisode ou un moment d'épisode en particulier dans la série qui t'a touché particulièrement ou qui est important pour toi en particulier ?
Attention, le passage qui suit comprend des spoilers sur les épisodes 3 et 5 de Sex Education. Si tu n'as pas envie de les entendre, rendez-vous à 26 minutes.
Il y en a plusieurs. Pour mon personnage, évidemment, l'épisode 3 est assez important parce qu'on traite du sujet de l'avortement et du choix que Maeve fait. Et on voit, pour la première fois, on voit Maeve être un peu plus vulnérable et un peu plus blessée. Mais pas forcément, et ce que je trouve bien, juste pas pour trop en parler, mais avec cet épisode-là, ce qu'on a vraiment essayé de faire, c'est de démystifier le processus de l'avortement. Et son avortement, c'est une façon d'avoir un avortement. C'est pas la seule manière. Donc on voulait pas faire peur, on voulait pas dramatiser, que ce soit un grand dilemme. Est-ce que je garde le bébé ou pas? Parce que beaucoup de fois, enfin, j'ai pas tout vu, hein, mais beaucoup de fois dans le cinéma ou dans les séries télé, les femmes qui tombent enceintes, en général, disent « ouais, je vais pas le garder » et le gardent. Alors que la réalité, c'est pas forcément ça. Et j'ai lu quelque part, apparemment, il y a un quart des femmes, jusqu'à l'âge de 50 ans, qui vont avoir un avortement une fois dans leur vie. Donc, c'est une réalité pour beaucoup de femmes. Et je suis contente qu'on n'ait pas dramatisé l'affaire. Et je trouve que c'est un sujet très important. Et la manière dont Maeve, elle vit la chose est super importante à voir aussi. Parce que ça se passe dans un épisode et après, on n'en parle plus. Parce qu'elle continue avec sa vie. Parce que c'est comme ça que ça se passe. On continue avec sa vie quand les choses comme ça arrivent. Et c'est pas traumatisant et c'est pas un gros truc qui la fait pleurer tout le temps. Mais donc cet épisode-là, pour moi, est très important. Et le petit moment à la fin, quand la photo de ma vraie maman sort du livre, à chaque fois, ça me... le cœur... Ça me serre le cœur et je pleure. Mais ouais, donc ça, c'est un moment très important pour moi. Et puis aussi l'épisode 5... quand on voit l'histoire d'Eric et que Eric traverse beaucoup de choses, ça pour moi c'est un moment très important aussi et très fort. Ouais.
Effectivement, je te rejoins sur ces deux épisodes et ces deux moments. J'encourage vraiment tout le monde à regarder cette série, justement pour ça, parce que le ton est très juste. Les événements dramatiques ne sont pas surdramatisés, mais pas non plus complètement délestés de leur, oui, de leur sens et de leur poids émotionnel. Absolument. Et je trouve que tous et toutes dans cette série, vous incarnez très bien ça. À la fois, tu vois que Eric souffre, tu vois que Maeve, c'est pas le meilleur moment de sa vie, ouais, et en même temps, c'est pas non plus la fin du voyage, exactement, pour eux. Ouais. Je vais revenir à ton parcours pour conclure, okay, cette interview. C'est quoi le pire conseil qu'on t'ait donné dans la vie?
Je sais même pas. Oh là. Je sais pas, j'arrive pas à penser au pire conseil qu'on m'a donné. Je sais pas si on m'a donné de mauvais conseils en fait.
C'est très cohérent avec ce que tu as dit tout à l'heure sur le fait d'être bien entourée.
Oui, voilà, exactement. Je suis très bien entourée, donc du coup on me donne pas de mauvais conseils. Voilà.
Alors à contrario, est-ce que tu pourrais nous partager le meilleur conseil que tu as reçu dans la vie qui t'a fait gagner du temps?
Ouais. Alors il y a mon cher collègue de travail, Shuti Gartois. Que j'adore, a une expression que ses parents utilisent et qu'il utilise tout le temps et que maintenant j'utilise. En anglais, c'est « face your front ». Donc regarde droit devant toi, regarde pas à gauche, regarde pas à droite, te compare pas à Janine et Michel. Tu focalises sur toi, sur ton chemin et sur ton travail. Tu respectes les gens autour de toi et sois gentil avec les gens et l'univers et ton travail te donnera des choses positives en retour. Voilà, face your front. Tout le monde, face your front. Regardez devant vous.
Merci beaucoup, Emma.
Merci beaucoup.
C'était super cool. Merci. Je suis vraiment ravie qu'on ait pu t'avoir sur Mademoiselle. Et bah, je te souhaite le meilleur pour la suite de ta carrière. J'espère qu'on te reverra.
Merci beaucoup.
J'espère déjà qu'on te verra une saison 2.
Ouais, moi aussi.
Sex Education, dispo sur Netflix. Merci.
Merci.
Sois gentil, dis merci, fais un bisou. C'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode et une nouvelle femme fantastique à découvrir sous un nouveau jour. Tu peux t'abonner sur ton appli de podcast, bien sûr, et ça m'aide énormément à faire connaître ce programme si tu en profites pour aller mettre 5 étoiles sur iTunes et un commentaire enthousiaste. Tu peux également faire découvrir ce podcast à tes amis par Deezer, Spotify, SoundCloud ou la chaîne YouTube dédiée, ou encore sur mademoiselle.com où les épisodes paraissent chaque jeudi. Ton soutien est précieux, alors merci sincèrement d'avoir écouté jusqu'au bout. Merci pour les commentaires et les étoiles. Le meilleur moyen d'aider ce podcast à grandir et d'aider Mademoiselle à grandir, c'est encore d'en parler autour de toi si ça te plaît. Merci beaucoup, à jeudi.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.